Alors, nous abordons enfin un sujet qui est extrêmement riche, qui est celui du gouvernement d'entreprise. On utilise aussi souvent le mot anglais de corporate governance, qui ne veut pas dire complètement gouvernement d'entreprise, qui voudrait dire gouvernement de la société. Mais c'est bien de ça qu'il est question, et avec Alain Courret, nous allons en parler. Qu'est-ce que c'est que le gouvernement d'entreprise? Pour faire simple, disons que ce sont des idées et des mécanismes que l'on va mettre en place pour assurer une meilleure direction à la société. Alors, ce peut être la loi qui prévoit des mesures de gouvernement d'entreprise. Un exemple, le contrôle des conflits d'intérêts. Le gouvernement d'entreprise en tant que tel, c'est un ensemble de mesures qui touchent certains domaines. Premier de ces domaines que l'on peut évoquer, mais l'ordre pourrait être différent, Alain, mais le contrôle des conflits d'intérêts. Comment s'assurer de ce que les dirigeants gèrent, dirigent la société dans l'intérêt de la société et pas dans leur intérêt. Et voilà un mécanisme bien connu, le contrôle des conventions réglementées, c'est dans la loi. Mais on peut dire que ça relève du gouvernement d'entreprise. C'est un peu original de parler de gouvernement d'entreprise pour cette mesure légale. Plus généralement, le gouvernement d'entreprise, on le trouve, et notamment sur le contrôle des conflits d'intérêts, on le trouve dans des codes de gouvernement d'entreprise. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces codes, Alain?
Oui, je crois que le gouvernement d'entreprise, au départ, je crois que c'est une prise de conscience, en fait. C'est plus ça qu'autre chose. Une prise de conscience de dysfonctionnement, qui est une prise de conscience aux États-Unis, dans un premier temps, autour des années 30. Puis on retrouve cette prise de conscience plus tard, autour des années 60. On la retrouve au Royaume-Uni, autour des années 90. Et au fond, on va la retrouver en France un petit peu plus tard. Non pas qu'il y ait une volonté d'imitation ou une volonté de se mettre dans la mode, mais tout simplement le fait que nous avons un marché français dans lequel aujourd'hui, les dernières statistiques nous disent que 47% des sociétés du CAC 40, dont les plus grosses sociétés françaises, est détenue par des étrangers. Donc ces gens avaient été sensibilisés au problème du gouvernement d'entreprise sous d'autres latitudes et naturellement avaient des attentes au niveau français. Alors comment traduire ce gouvernement entre ces exigences-là? Comme Bruno, tu l'as dit il y a un instant, on peut évidemment le mettre dans la loi et le législateur y a pensé quelquefois, hein. On a quelques exemples. Ainsi, la dissociation entre le président et le directeur général. Là, c'est la loi NRE du 15 juin 2001, du 15 mai 2001, qui le dit. Mais de manière générale, conscience a été prise un peu partout de ce que la loi ne serait pas efficace à ce niveau-là. Et on a préféré la méthode des codes, effectivement. Seulement, avec des méthodologies d'approche extrêmement différentes, parce que le code peut être soit l'expression d'une espèce de volonté de place, hein. C'est un petit peu le cas aujourd'hui en Allemagne et dans d'autres pays, où on va réunir divers experts et où l'on produit un document qui est représentatif d'un sentiment général de place. Ce n'est pas totalement démocratique, parce que si démocratie il y avait, c'est l'Assemblée nationale qui devrait le faire, mais globalement, tous les représentants des divers intérêts sont rassemblés. On peut aussi le faire d'autres manières, et s'agissant de la France, c'est un syndicat. Au départ, ce sont deux syndicats, en réalité, qui ont pris la décision de proposer un premier code, hein, ce code AFEP-MEDEF, qui aujourd'hui s'est imposé naturellement, d'ailleurs faute de concurrence véritable, parce que fabriquer un code, c'est compliqué, ça demande, et surtout lui donner de l'autorité, ça prend beaucoup de temps, lui donner de la crédibilité. Donc aujourd'hui, ce code est presque exclusivement, est la seule source, je dirais pratiquement, de règles de gouvernement d'entreprise, avec évidemment la nécessité de prendre en considération le fait que ce code émanant de deux syndicats, pour l'essentiel, n'a pas la représentativité que l'on pouvait évoquer tout à l'heure en évoquant par exemple l'exemple allemand.
D'accord, donc ça c'est le code AFEP-MEDEF, dernière version juin 2013, c'est le code qui est le plus suivi par les plus grandes des sociétés cotées. Nous avons un autre code qui est le code dit MiddleNext, qui émane aussi d'une association professionnelle. Ces codes, ils sont appliqués avant tout par des sociétés cotées, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient moyennes, mais par des sociétés cotées en bourse. Les sociétés plus petites peuvent prendre ces codes comme modèle. Ce que l'on peut dire encore, c'est que ce ne sont pas des textes obligatoires, mais il y a une règle que l'on connaît qui est, alors on peut l'appeler en français, appliquer ou s'expliquer. En anglais, elle est plus connue, comply or explain, c'est-à-dire que si vous suivez un de ces codes et que vous voulez en écarter certaines règles, il faut expliquer pourquoi vous écartez ces règles. Alors, ce sont des recommandations qui sont contenues dans ces codes. Je prends quelques exemples. Il est recommandé d'avoir un certain nombre d'administrateurs indépendants dans le conseil d'administration d'une société anonyme cotée. Il est recommandé de soumettre la rémunération des dirigeants à l'Assemblée, dans la dernière version du code, ce que l'on appelle le say on pay. Il est recommandé d'avoir des comités spécialisés qui travaillent pour le conseil d'administration et qui facilitent la prise de décision par le conseil d'administration, comité d'audit, comité des rémunérations, comité des nominations. Un certain nombre de pratiques, lutter contre les conflits d'intérêts plus que la loi n'y oblige, un certain nombre de pratiques sont prévues par ces codes et ces pratiques vont être suivies par ces grandes sociétés, ce qui du coup doit garantir à leurs actionnaires et donc au marché une meilleure gouvernance dans le cadre de ces sociétés.
Oui, je crois que chose qui me paraît importante ici, c'est que les juristes ont toujours vécu longtemps avec une distinction classique entre la hard law, hein, la loi qui est dure, c'est-à-dire celle qui est dans le code, et la soft law
Dans le code de commerce.
Voilà. C'est le code de commerce et la soft law qui serait de vagues recommandations. Or, manifestement, on est très très loin de cette logique aujourd'hui parce que derrière la recommandation, il y a une espèce de logique qui s'est mise en place et qui fait que le non-respect va se traduire par des sortes de dénonciations, parce qu'on va avoir soit un rapport de l'autorité des marchés financiers tous les ans qui indique ce qui lui paraît être une déviation. L'AFEP-MEDEF, de son côté, a déjà mis en place un rapport qui, lui, est tous les deux ans, mais plus récemment a mis en place une instance de surveillance, ce qui veut dire que la recommandation qui n'est pas respectée est une recommandation qui, tôt ou tard, va être dénoncée. Elle va être dénoncée, elle va être reprise, et au-delà même de cette simple dénonciation, il y a le pouvoir d'influence direct qui va s'exercer parce que telle entreprise qui ne respecte pas sera convoquée pour pouvoir, avec l'obligation de s'expliquer. Donc attention, le mot recommandation ici est un mot très doux pour exprimer une réalité qui est plus brutale, me semble-t-il.
Une recommandation contraignante.
Une recommandation contraignante.
Merci Alain.
Merci Bruno.